Bonjour, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir de présenter ce soir le sujet Israël aujourd'hui. Nous allons ensemble considérer comme la prophétie s'accomplit sous nos yeux. Et d'ailleurs, parmi plus de 175 prophéties accomplies sur la période de 1882 jusqu'à 2014, nous allons considérer ensemble 40. Tout d'abord, pour introduire au sujet, on peut distinguer trois phases de l'existence d'Israël. Voilà la première, depuis l'exode de l'Égypte jusqu'à la fin de l'État juif, c'est-à-dire depuis 1606 avant Jésus-Christ jusqu'à 135 après Jésus-Christ, lorsque les Romains ont complètement détruit les derniers restes de l'État d'Israël. Ensuite, la période 2, l'époque de la dispersion mondiale. Voilà les Juifs, en fait, depuis 70, ensuite, particulièrement depuis 135, jusqu'à 1882, ils étaient sans État, dispersés dans le monde entier. Et voilà, le changement est venu, ce qui a initié la troisième phase, l'époque du retour. Depuis 1882, les Juifs ont commencé à immigrer de nouveau en masse au pays des ancêtres. Et voilà un développement que nous constatons jusqu'à aujourd'hui, 2014. Et là, je dois expliquer que la Bible appelle cette époque du retour le temps de la fin. Et vous voyez, lorsqu'on dit « aujourd'hui, nous vivons dans les derniers jours, dans le temps de la fin », cela ne veut pas dire « à la fin du monde ». Il faut donc bien définir que veut dire l'expression « le temps de la fin ». En fait, c'est comme dans la musique. C'est un thème avec beaucoup de variations. Voilà plusieurs expressions de la Bible qui désignent le temps de la fin. Par exemple, Ézéchiel 38:8, à la fin des années. Ou un synonyme en Daniel 8:23, au dernier temps. Osée 3, verset 5, un terme vraiment technique pour la prophétie biblique. À la fin des jours. Comme aussi en Joël 4, verset 1er, en ces jours-là, et en ce temps-là, acte 2, 17, au dernier jour, 2 Timothée 3, verset 1er, dans les derniers jours, 1 Jean 2, verset 18, la dernière heure. Et il y en a encore plus de synonymes, mais on peut dire toutes ces expressions parlent du temps du Messie. Lorsque le Messie viendra pour régner comme roi dans ce monde. Eh bien, j'ai déjà de nouveau utilisé un terme technique de la prophétie biblique, le Messie. Qu'est-ce que ça veut dire, le Messie? Eh bien, le Messie, c'est le sauveur promis qui devait un jour venir dans ce monde pour apporter le salut de Dieu à Israël et à toutes les nations. Mais dans la première partie de la Bible, qui a été écrite longtemps avant la venue de Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, le Messie est décrit de deux façons différentes. Il y a beaucoup de passages qui parlent d'un Messie souffrant qui viendrait un jour mais pour mourir comme un sacrifice pour nos péchés. Le juste pour nous, les injustes, afin de nous amener à Dieu. Par exemple, Ésaïe 53, Psaume 22, Daniel 9 et beaucoup d'autres passages. Mais en contraste avec ces descriptions, nous avons beaucoup de passages de l'Ancien Testament qui parlent d'un Messie triomphant qui un jour viendra comme roi des rois, juge du monde, pour apporter l'ordre dans ce monde de chaos. Eh bien, comment on peut réconcilier ces deux descriptions totalement différentes? Eh bien, en fait, c'est facile. Parce que déjà, le texte de l'Ancien Testament le rend clair qu'il s'agit de deux venues du Messie. Ou on peut clairement dire, deux venues de Jésus-Christ. Une première fois, le Messie devait venir comme le Messie souffrant. Et cela s'est accompli en Jésus-Christ, en Jésus de Nazareth. Et effectivement, j'ai compté une fois toutes les prophéties accomplies concernant le Messie souffrant, et j'ai atteint une liste de plus de 300 prophéties accomplies par la première venue. Voilà, Jésus-Christ, le Messie souffrant. Et voilà, les prophètes ont dit, beaucoup plus tard, le Messie reviendra. Voilà, la deuxième venue, et la deuxième fois, le Messie devrait venir comme le Messie triomphant. Et nous trouvons dans la parole, dans la Bible, une clé pour distinguer ces deux venues. En rapport avec la première venue, les prophètes ont dit, le peuple, la masse de son propre peuple va rejeter le Messie, et comme conséquence de cela, le peuple juif sera dispersé dans le monde entier et perdra le pays des ancêtres. En rapport avec la venue du Messie triomphant, déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes ont annoncé dans la période qui précède sa venue, le peuple juif sera rassemblé de toutes les nations en retour pour aller de retour au pays des ancêtres. C'est simplement remarquable cette sorte d'antiparallélisme. Et voilà, ce qui nous occupe maintenant, ce soir, c'est cette période du retour du peuple juif. Pourquoi? Parce que nous sommes des témoins oculaires de ce phénomène, et la Bible appelle cette époque du retour les derniers temps, le temps de la fin. Comme j'ai déjà expliqué, cela ne veut pas dire la fin du monde, mais ça veut dire la fin de cette longue période entre la première et la deuxième venue. C'est ça, ça veut dire les derniers temps, les derniers jours, ce sont les derniers jours de cette longue période entre deux. Alors ça veut dire, puisque nous voyons, nous observons ce retour des Juifs du monde entier au pays des ancêtres, d'ailleurs, cela, comme j'ai expliqué, depuis 1882, c'est là où les Juifs russes, des milliers, sont rentrés au pays des ancêtres, eh bien, là a commencé cette époque des derniers temps. Et nous allons considérer, donc, parmi ces 165 prophéties accomplies, une quarantaine. Mais d'abord, j'aimerais encore vous montrer comment les prophéties se sont accomplies concernant la dispersion juive comme conséquence du rejet de Jésus-Christ. Voilà, dans le livre appelé le Lévitique 26-31, écrit d'ailleurs vers 1600 avant Jésus-Christ, Moïse, comme prophète, nous transmet la voix de Dieu, qui dit au peuple d'Israël, à cette époque déjà, « Et je réduirai vos villes en désert, et je désolerai votre sanctuaire. » Vous voyez, etc. exactement ces paroles se sont accomplies en 70 après Jésus-Christ, lors de la destruction de Jérusalem et de l'État juif et du second temple par les Romains. Et cela quelques années après la crucifixion de Jésus-Christ devant les portes de Jérusalem. Je continue par la citation, le prochain verset 32. « Et je désolerai le pays et vos ennemis qui y habiteront en seront étonnés. » Et vous voyez, c'est un fait que ce pays d'Israël, qui était un pays qui ruisselait de lait et de miel, est devenu dans un processus de plusieurs siècles un désert, une désolation. Et effectivement, des membres d'autres peuples, des peuples arabes, ont envahi ce pays, comme le texte le dit. Et vos ennemis qui y habiteront en seront étonnés. Et voilà, le texte continue, verset 33. « Et vous, je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous, et votre pays sera mis en désolation, et vos villes seront un désert. » Et voilà, c'est un fait historique. La dispersion des Juifs parmi les peuples du monde entier, dispersés sur la surface des 5 continents du monde, depuis l'Amérique du Sud jusqu'au Chine et au Thaïlande, depuis l'Amérique du Nord jusqu'en Australie et Nouvelle-Zélande, depuis le Norvège jusqu'en Afrique du Sud. Et voilà, on a encore lu dans ce même texte, « Et je tirerai l'épée après vous. » Et c'est un fait que le total de la persécution des Juifs, de la haine parmi tous les peuples du monde contre les Juifs, voilà le total de 13 millions de morts depuis 70 jusqu'à aujourd'hui. À travers tous les siècles, non pas seulement au XXe siècle, en rapport avec les nazis. Vous comprenez, lorsqu'on lit ce texte de Lévitique 26 dans les synagogues du monde entier, le chazan, celui qui récite le texte tout en chantant l'hébreu, n'a pas le droit de présenter le texte à haute voix. Parce qu'on est tellement conscient, chaque mot s'est accompli littéralement et terriblement. Bien sûr, maintenant on peut se demander, mais pourquoi, quel est le sens de cette longue période entre la première et la deuxième venue de Jésus-Christ? Et voilà, la réponse se trouve déjà dans la première partie de la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le rouleau d'Ésaïe, écrit vers 700 avant Jésus-Christ, Dieu, le Père, parle au Messie. Ésaïe 49, verset 6. Et il me dit, c'est peu de choses que tu me sois serviteur pour rétablir une tribu de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël. Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être à mon salut jusqu'au bout de la terre. Voilà, les 2000 ans passés étaient la chance pour les peuples non-juifs. Car la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ a été annoncé sur la surface des 5 continents du monde, jusqu'au bout de la terre. N'est-ce pas? Dans la Bible, le pays d'Israël, le pays choisi par Dieu, est considéré comme le centre du monde. D'ailleurs, c'est la connexion, en fait, entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. C'est vraiment géographiquement unique. Et voilà, le bout de la terre, ou les bouts de la terre, sont ces parties des continents qui sont le plus éloignés du pays d'Israël. Donc lorsqu'on a annoncé la bonne nouvelle aux Amérindiens, au sud de l'Argentine, eh bien, on a annoncé la parole au bout de la terre. Lorsqu'on a apporté la Bible aux Esquimaux, au nord du Canada, on a atteint le bout de la terre. Et c'est la même chose lorsqu'on est arrivé jusqu'à Nouvelle-Zélande, jusqu'à Thaïlande, jusqu'au Japon, etc. Donc, dans la même période où les Juifs étaient dispersés dans le monde entier, la bonne nouvelle du Messie dans le monde entier. Et voilà, cette dispersion d'Israël est décrite d'une manière frappante dans le prophète Osée 3, verset 4, écrit d'ailleurs au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc, longtemps avant la destruction de l'État juif, c'est décrit de cette façon. Car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi et sans prince. N'est-ce pas, ça exprime bien cet état sans état juif. Resteront beaucoup de jours sans roi et sans prince et sans sacrifice. Car les Juifs n'avaient plus de temple depuis l'an 70 jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, les fils d'Israël retourneront. C'est-à-dire, ils retourneront au pays des ancêtres, à la fin des jours. Et ici, vous pouvez obtenir donc, ce fait biblique, la période de la fin des jours, c'est la période du retour des Juifs. Mais ce qui est aussi frappant, c'est le fait que Osée, au 8e siècle, donc, des siècles avant la destruction de l'État juif et de la dispersion juive, parle déjà du retour des Juifs. Ça, c'est la prophétie. Eh bien, on a bien retenu ce schéma de la prophétie biblique, les deux venues du Messie, la dispersion des Juifs, le retour des Juifs, et nous allons considérer, comme j'ai dit, particulièrement, ce retour des Juifs dans cette troisième période de l'histoire israélienne, les derniers temps, depuis 1882. Maintenant, vous comprenez bien que la période appelée les derniers temps, c'est déjà une période de plus de 130 ans, si vous voulez, 132 ans. Et voilà, à la fin de cette période, qui a commencé en 1882, qui va aller donc, jusqu'au point culminant, le retour de Jésus-Christ comme roi du monde, comme juge du monde. Et là, j'ai symboliquement indiqué par ces signes verts les prophéties concernant les derniers jours qui sont déjà accomplies. Un jour, ça m'a intéressé une fois d'avoir une liste de toutes ces prophéties. Et j'ai commencé à les mettre dans une liste, et la liste est devenue toujours plus longue, jusqu'à plus de 175 prophéties. Et finalement, j'ai écrit un livre avec ce titre. Sommes-nous vraiment dans les derniers jours, plus de 175 prophéties accomplies. Alors, nous allons considérer une première prophétie. Le retour des Juifs, 1882 jusqu'à 2014. Voilà Ézéchiel 36, 24, écrit au 6e siècle avant Jésus-Christ. Dieu dit aux Juifs, « Et je vous prendrai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous amènerai sur votre terre. » Donc c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Nous sommes des témoins oculaires du fait que 3 millions de Juifs des 5 continents d'environ 130 pays différents sont retournés au pays des ancêtres. Et ce qui est aussi à noter, c'est le fait de la clarté du texte. Vous voyez, on ne doit pas interpréter des symboles. Mais le texte est clair. Chaque enfant qui sait le français, et d'ailleurs en hébreu, chaque enfant qui sait l'hébreu, comprend ce texte. Je vous prendrai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous amènerai sur votre terre. En plus, le texte explique à qui appartient le pays. Le pays qui longtemps était appelé la Palestine. Et là, le texte dit, j'amènerai sur votre terre. Donc, voilà, une première prophétie, mais c'est quand même notable de voir le fait que nous connaissons pas de parallèle dans l'histoire humaine. Quand est-ce qu'un peuple dispersé 2000 ans dans le monde entier est retourné pour finalement fonder de nouveau un État après 2000 ans, sans parallèle? Donc vous voyez, il n'y avait pas de probabilité pour dire une telle prophétie, un jour ils vont retourner, n'est-ce pas, au pays des ancêtres. Il n'y a pas de probabilité. Mais ça a été annoncé et nous constatons l'accomplissement. 2. L'hébreu revit, 1881 à 1922. Là, je dois d'abord expliquer. Ésaïe 19. C'est un chapitre dans l'Ancien Testament qui parle de l'Égypte dans les derniers jours. C'est d'ailleurs un des chapitres préférés des nombreux chrétiens arabes égyptiens. C'est un beau chapitre. Et voilà, dans ce contexte-là, il est question de l'époque où le Messie reviendra comme roi. Et là, au verset 18, il est dit, « En ce temps-là, on parlera même dans 5 villes égyptiennes. » La langue de Canaan. Le terme « la langue de Canaan » veut dire l'hébreu. Mais autrefois, on aurait dû avoir un problème avec ce texte. Car, bien sûr, il y a 2000 ans, à l'époque de Jésus-Christ, en Israël, on parlait et l'hébreu et l'arabien. Et d'ailleurs, souvent les gens parlaient aussi le grec, puisque c'était la langue de l'Empire romain à l'Est. Non pas latin, mais grec. Mais, par la destruction totale de l'État hébraïque, l'État juif, à 135 après Jésus-Christ, eh bien les Juifs étaient dispersés, et par la dispersion, ils ont acquis les langues des nations où ils sont arrivés. Et ainsi, ils ont perdu l'hébreu comme une langue parlée. Une langue de tous les jours. On pense environ vers 400 après Jésus-Christ, l'hébreu était une langue morte comme le latin. On l'utilisait encore, comme encore aujourd'hui, pour la lecture de la Bible dans les synagogues, ça se fait en hébreu, et pour les prières, les livres de prières sont en hébreu, mais ce n'était plus une langue de tous les jours. Mort comme le latin. Mais là, alors, il est dit, dans la période où le Messie viendra, la langue hébraïque sera une langue parlée. À ce moment-là, dans l'avenir, même encore dans cinq villes égyptiennes. Eh bien, on n'a jamais vu dans l'histoire humaine qu'une langue morte, après 1000 ans, soit de nouveau parlée. Jamais. Mais Eliezer ben Yehuda, 1858 à 1922, c'était un des premiers juifs qui est retourné au pays des ancêtres, qu'on appelait à l'époque la Palestine. Autrefois c'était Israël. Plus tard, on a donné le nom de Palestine. Il est arrivé en Palestine et il s'est dit, mais les juifs en Palestine ne devraient pas parler le yiddish, ou le français, ou le arabe, ou le russe, mais il devrait de nouveau parler cette langue des prophètes de la Bible. Et voilà, il a fait revivre l'hébreu après quelques 1600 ans, tout en écrivant un dictionnaire gigantesque, où il inventait des nouveaux mots pour la vie moderne, mais surtout des mots créés par des racines hébraïques, de l'hébreu ancien, vous voyez ? Non pas pour introduire des mots anglais, n'est-ce pas, ou français, non, vraiment créer des nouveaux mots hébreux. Et il a édité un journal, Hatzvi, pour apprendre aux Juifs en Palestine comment il faut parler l'hébreu aujourd'hui. Il a commencé à enseigner à l'école en hébreu, ce qui est un scandale. Vous voyez, les orthodoxes, les juifs orthodoxes de l'Europe de l'Est, avec les habits noirs, les longues barbes, etc., ils étaient contre lui. C'est quelqu'un qui profane la sainte langue de la synagogue pour l'école. On a lancé des pierres sur lui lorsqu'il est allé à l'école. On l'a plus qu'une fois même excommunié de la synagogue. Il a continué. C'était un homme vraiment têtu. Vous donnez un exemple. Tout au début de son mariage, il a dit à Déborah, « Déborah, notre premier bébé sera le premier bébé dans le monde qui ne parle que l'hébreu. » Ah bon ? Alors, il savait qu'il fallait se mettre pendant la grossesse toujours à apprendre l'hébreu. Il a dit, dans la maison de Ben Yehuda, même au jour de la naissance, on ne parlera jamais d'autre langue que l'hébreu. Défendu de parler yiddish ou russe que l'hébreu. Et si les femmes sages ne savent pas s'exprimer en hébreu, il faut se taire. Et il a agi comme ça. Ben Zion était effectivement le premier bébé après enfant qui savait que l'hébreu. D'ailleurs, on a aussi enseigné dans les jardins d'enfants. Alors, vous imaginez, les enfants viennent à la maison et ils apprennent aux parents comment parler l'hébreu. Ils arrivent, Shalom Abba, Shalom Ima, Manishma, Zekach Yafel, Zachek, Miladim Acherim, Begat Hayeladim, Les Shmoa, Sipurim Yafim, La Shir, Shirim Yafim. Voilà, comme ça on apprend. Et ça marchait. Aujourd'hui, l'hébreu, c'est la première langue de l'État juif moderne. 3. Achat de terrain, 1882 jusqu'à 1940. Il faut que j'explique. Les premières décennies de la colonisation juive de la Palestine étaient caractérisées par l'achat de grands terrains, surtout de la part de grands propriétaires arabes qui ont vécu à Damas, Beyrouth et au Caire. Et ils ont payé énormément d'argent pour un désert. Les prix du sol étaient plus élevés que le prix de sol à l'époque aux États-Unis. Mais les Juifs ont payé. Et c'est exactement ce qui est écrit en Jérémie 32. Vous pouvez lire tout le chapitre et vous allez voir, c'est le contexte, c'est vraiment les derniers jours. Verset 44 nous dit, on achètera des champs à prix d'argent. Et on écrira les lettres, et on les scellera, et on les fera attester par les témoins dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, et dans les villes de Juda, et dans les villes de la montagne, et dans les villes de la Shephéla, et dans les villes du Negev, car je rétablirai leur sort, dit l'Éternel. Alors, ça c'est à compter. Mais le texte a plus de détails. Il ne dit pas simplement on achètera des champs, mais le texte dit exactement où, n'est-ce pas? Là, il y a plus de risques. Quand on prophétise quelque chose qu'un peu général, c'est moins dangereux que si on dit alors, ça devrait se réaliser à Toulouse, à Paris et à Marseille. C'est plus simple si on dit simplement où ça devrait se réaliser n'importe où. Oui. Alors, ici, numéro 4, c'est achat dans le territoire de Benjamin. Comme le texte le dit, dans le pays de Benjamin. Prenez une carte biblique qui explique où était la tribu, le territoire de la tribu de Benjamin. Et vous allez voir, oui, au nord de Jérusalem jusqu'à Ramallah. Eh bien, nous savons exactement où les Juifs ont acheté, n'est-ce pas? Alors, entre Jérusalem et Ramallah, d'ailleurs, en Cisjordanie, c'est territoire occupé aujourd'hui, mais là, les Juifs ont acheté beaucoup de terrain. 5. Jérusalem. Oui, le texte nous dit, et aux environs de Jérusalem, et effectivement, largement autour de Jérusalem, on a acheté énormément de territoire. 6. Dans la montagne de la Judée, et dans les villes de la montagne, en rapport avec les villes de Juda, n'est-ce pas? Dans les villes de Juda et dans les villes de la montagne. Vous voyez les montagnes d'Israël, ici, du nord au sud. Ça, c'est le désert du Negev. Donc, ce qui était peuplé, c'était en général entre Beersheba, dans l'Ancien Testament, jusqu'à Dan. Alors, vous voyez les montagnes d'Israël. Et voilà les montagnes de la Judée, c'est là entre Jérusalem et Hébron. Et là, ils ont acheté beaucoup de terrain. 7. La Shephéla. Oui, le texte dit dans les villes de la Shephéla. N'est-ce pas? Il y a des traductions qui parlent du Pays-Bas. Mais ce n'est pas en Irlande, en Hollande. Mais le terme la Shephéla en hébreu désigne spécialement donc, le Pays-Bas à côté des montagnes de la Judée, vers la Méditerranée. Et là, ils ont acheté le plus en Judée. Et dans la région de Tel Aviv, vous voyez, une ville qui a été bâtie sur le sable en 1909, dans les villes de la Shephéla. 8. Le Negev. Le texte dit « dans les villes du Negev ». Peut-être vous avez une Bible où il est dit « dans les villes du Sud ». Oui, parce que « Negev », ça veut dire en hébreu « Sud ». Mais vous ne pouvez jamais parler du Negev des Indes. Là, il faudrait dire en hébreu « Daron »,« Midron Hotou », au sud de l'Inde. Mais Negev, c'est vraiment le sud du pays d'Israël. Et voilà, ici, le désert du Negev. Et effectivement, là, juste au sud de Beersheba, dans le désert, ils ont acheté énormément de territoire. Chaque point s'est accompli à la lettre. 9. Ville de l'Ancien Testament rebâtie. 1882 jusqu'à 2014. Je lis Amos 9, les derniers deux versets, écrits au 8e siècle avant Jésus-Christ. Dieu parle, et je rétablirai le sort de mon peuple Israël, et ils bâtiront les villes dévastées et y habiteront. Et ils planteront des vignes et en boiront le vin, et ils feront des jardins et en mangeront le fruit. Et je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés de dessus leur terre que je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu. Ils bâtiront les villes dévastées. Et nous sommes aujourd'hui témoins oculaires comme des villes vétérotestamentaires sont aujourd'hui des villes modernes, pleines de vie. Mais, aussi dans ce texte, il y a plus de détails. 10. Vignes et vin. Le texte ajoute « Ils planteront des vignes et en boiront le vin ». Un lecteur de la Bible, un peu superficiel, se dirait « Oui, ils vont planter quelques vignes et boire du vin, mais c'est rien du tout ». Mais je peux vous assurer, lorsque Dieu dit quelque chose dans sa parole, il y a toujours une raison profonde. N'est-ce pas? Dieu n'est pas comme nous, Nous devons faire attention à ne pas parler n'importe quoi, à utiliser trop de mots. Mais Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il faut se dire, ah bon, alors là ça m'intéresse, comment ça s'est réalisé? Eh bien, lorsque les milliers de Juifs venant de la Russie, 1882, 3, 4, 5, etc., sont arrivés au pays qu'on appelait la Palestine, ils se sont dit, mais c'est un désert, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, à cette époque, le baron de Rothschild, de Bordeaux, a dit, il faut prendre des cèpes de Bordeaux et les amener au pays. Le sol, c'est vraiment bien pour faire cette sorte d'agriculture. Et effectivement, on est allé chercher des vignes en France pour les planter. Mais malheureusement, c'était l'époque où on avait cette catastrophe en France, n'est-ce pas? Avec cette bestiole qui a détruit toute l'agriculture en rapport avec le vin en France. Et ça, la même chose s'est passée en Palestine. Mais après, on a recommencé. On a cherché des cèpes en Californie, d'ailleurs aussi en Allemagne. Et on a recommencé. Et cette fois, on a accompli une grande œuvre. Et aujourd'hui, cette branche de l'agriculture s'est tellement développée que Israël a reçu tant de médailles d'or pour des vins de qualité à l'échelle mondiale. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Mais juste entre deux, j'aimerais encore, je vais revenir sur ce passage, mais je vais encore parler, 11, de sept de l'étranger. Parce que on les a dit sept, il y a aussi une prophétie qui parle des derniers jours. Et là, Dieu dit, car tu as oublié le Dieu de ton salut. Et tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton lieu fort. C'est pourquoi tu planteras des plantations agréables et tu les sèmeras de cèpes étrangers. Sept cents avant Jésus-Christ. Alors, on passe en revue de se dire, mais pourquoi des cèpes étrangers? Aujourd'hui, nous le savons, parce qu'il fallait chercher en France les cèpes ou en Californie, parce que les cèpes au Proche-Orient. Mais tout était détruit par les musulmans. Après la mort de Mahomet, 632 après Jésus-Christ, les musulmans venant de la péninsule arabe sont allés vers le nord pour maintenant conquérir le monde entier, le soumettre à l'islam. Déjà, 638, ils sont arrivés à Jérusalem pour après mettre les deux mosquées sur l'esplanade du temple, le Dôme du Rocher, et ensuite la mosquée l'Aqsa. Alors, les musulmans, ils ont détruit toute cette agriculture de vignes en Israël. Ils jouaient, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, un grand rôle. Pensez à toutes ces paraboles qui parlent du cèpe, des vignes, du vin, du jus de raisin, etc. Totalement détruit. Et voilà, c'est pour ça, les restes au Proche-Orient, ça ne valait pas grand-chose pour faire des vins de qualité. Il fallait chercher à l'étranger, les cèpes de cèpe étrangers. Mais il y a encore un détail. Le contexte dit, car tu as oublié le Dieu de ton salut et tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton lieu fort. Et c'est remarquable. Vous voyez, les premiers juifs qui arrivaient depuis la Russie, beaucoup d'entre eux n'étaient pas des orthodoxes, pas des gens religieux, c'était des socialistes, des marxistes et des athées, etc. Ils sont venus pas pour maintenant accomplir la prophétie biblique, enfin. Non, ils se sont dit,
il faut une solution de la question juive. On est haï tout le temps. On va d'un ghetto à l'autre. On nous accepte pas. Il faut une solution. Il faut retourner en Palestine, recommencer à zéro. Et sur des bases socialistes, former des moshavim, des coopérations d'agriculture et des kibbutz, c'est-à-dire des sociétés vraiment sur la base du socialisme, et ainsi recommencer à zéro avec des cercles étrangers. Car tu as oublié le Dieu de ton salut. Tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton lieu fort. C'est pourquoi tu planteras des plantations agréables et tu les sèmeras de cèpes étrangers. Mais néanmoins, des personnes qui ne croyaient pas du tout en Dieu et pour la Bible n'avait pas une importance pour eux, ils ont accompli le conseil de Dieu. 12. Je reviens à Amos 9. Des plantations de fruits. Notre texte ajoute, ils feront des plantations et en mangeront le fruit. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire à côté des vignes? Eh bien, planter des fruits exotiques, comme des oranges, des mangos, des bananes, etc. Et voilà, c'est devenu une agriculture importante. Seulement, par exemple, les fruits d'agrumes, on produit aujourd'hui dans un si petit pays jusqu'à 900 000 tonnes par an. Et un tiers est exporté dans le monde entier. Alors, vous voyez, comme ça s'est accompli. 13. Le pays transformé. 1882 jusqu'à 2014. Je reviens à Ézéchiel 36, où nous avons déjà lu au début le verset 24 qui parle du retour de toutes les nations pour aller au pays des ancêtres. Et au verset 34, le texte nous dit « Et le pays désert sera labouré. Au lieu d'être une désolation aux yeux de tous les passants, et ils diront, ce pays qui était désolé est devenu comme le jardin d'Éden. Et les villes ruinées et désertes et renversés sont fortifiés et habités. » Et effectivement, les Juifs, au pays d'Israël, ils ont planté depuis 1882 jusqu'à aujourd'hui environ 240 millions d'arbres. Vous devez une fois faire une promenade dans les forêts des montagnes de la Judée, entre Tel Aviv et Jérusalem. Mais c'est une région de toute beauté. Plein de forêts. En plus, Israël produit aujourd'hui environ 1,3 milliard de fleurs. Si petit pays, n'est-ce pas? Et on exporte énormément aussi dans le monde entier. Une fois, j'ai parlé de ça en Hollande. Et j'ai dit, vous n'êtes pas les seuls à exporter des fleurs. Israël le fait aussi. Et quand j'amène des groupes de l'Europe en Israël, j'aime surtout ceux qui viennent la première fois et qui sont émerveillés par la beauté des fleurs. Vraiment, comme il est dit. Et ils diront, ce pays qui était désolé est devenu comme le jardin d'Éden. Mais vous voyez, pendant plusieurs décennies, les Juifs sont venus, ils ont transformé la terre, mais il n'y avait pas encore un État juif. 14, la fondation de l'État d'Israël, le 14 mai 1948. Ce jour devait venir de la fondation de l'État juif, lorsque Ben-Gurion a annoncé par la radio la fondation de l'État juif. Ésaïe 66, verset 8, « Qui a entendu une chose pareille? Qui a vu de telles choses? Fera-t-on qu'un pays enfante en un seul jour? Une nation naîtra-t-elle en une fois? Car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. » C'est devenu un fait, le 14 mai. Mais le texte en parle de plus. Il dit, « Car aussitôt que Sion a été en travail, ça parle des douleurs d'enfantement. Et je peux vous dire, ça fait excessivement mal. Oui, j'ai vécu 6 fois. Donc, ma femme, mais j'ai souffert avec, n'est-ce pas? Et, n'est-ce pas, on ne peut pas dire objectivement ce que c'est effectivement le ressentiment des douleurs. Mais on peut quand même subjectivement dire, sur une échelle de 1 jusqu'à 10, à quoi correspondent les douleurs de l'enfantement? C'est 10. Eh bien, ça nous amène à 15, la fondation de l'État d'Israël pendant une période de guerre. N'est-ce pas? L'ONU, à la fin novembre 1947, a décidé qu'il faut fonder un État juif. Et après le terrorisme palestinien a eu un impact comme jamais avant contre les Juifs. Terrible, terrible. Et les Anglais étaient toujours au pays depuis la Première Guerre mondiale. Ils avaient le mandat sur la Palestine. Mais la nuit du 14 au 15 mai, les derniers soldats ont quitté le pays. Et à ce moment-là, 9 armées arabes étaient stationnées vers les frontières d'Israël. 9, avec des armes lourdes, comme l'Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Yémen, et encore plus pour détruire totalement Israël. Et voilà, le lendemain a commencé la guerre totale. Car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. 16. La conquête du mont Sion le 7 juin 1967. Après la guerre d'un an et demi, 48-49, les Arabes étaient battus par Israël. C'était miraculeux, parce qu'au début, Israël n'avait presque pas d'armes lourdes. C'était une catastrophe pour le monde musulman. Car on dit, la preuve de la véracité de l'islam est la force et la supériorité militaire de l'islam. Alors voyez, une telle défaite était une catastrophe. On ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire pour ces pays musulmans. Alors on s'est dit, attendez, on va le faire plus tard. Et pendant les années, ils ont reçu des armes modernes de l'Union soviétique. Et à 67, ils se sont dit, maintenant, le jour est arrivé. On va détruire totalement Israël. Mais 67, le président de l'Égypte, Nasser, a encore annoncé publiquement: notre premier désir, c'est de notre premier but est de détruire Israël. Ce qui a déclenché la guerre des 6 jours. Et pendant ces 6 jours, Israël, l'armée israélienne, a fait la conquête de Jérusalem de l'Est avec le mont du Temple. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Après 6 jours, une défaite de toutes les armées arabes, musulmanes, et une nation a survécu. Mais en plus, ils ont maintenant le mont du Temple, perdu depuis l'an 70. Vous ne pouvez pas vous imaginer les émotions, parce que depuis l'an 70, on prie dans le judaïsme, en principe 3 fois par jour, pour que Dieu installe de nouveau le temple sur le mont de Sion, à Jérusalem de l'Est. Et voilà, le psaume 126 s'est accompli sur la prophétie et décrit comme si c'était dans le passé, parce que le prophète a vu les choses se dérouler. Quand l'Éternel rétablit le sort de Sion, Sion veut dire le mont du temple dans la Bible. Nous étions comme ceux qui songent. Alors notre bouche fut remplie de rire et notre langue de chants de joie. Alors on dit parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour ceux-ci. Après 6 jours, ce recul. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Nous en avons été réjouis. 17. Le but des ennemis, exterminer Israël. Cela a été aussi prédit dans le psaume prophétique 83. Je lis à partir du verset 1er. Ô Dieu, ne garde pas le silence, ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Dieu. Vous entendez donc les Juifs prier dans les derniers jours. Car voici tes ennemis s'agitent et ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils trament avec astuce des complots contre ton peuple. Elles consultent contre tes fidèles cachés. Ils ont dit, venez et exterminons-les, de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. C'est exactement le langage moderne de l'histoire depuis 1948 et après. Et voilà, trois fois, le monde islamique autour d'Israël a essayé de détruire Israël. 48-49, 67, et la guerre du Yom Kippour, 73. Alors, vous pouvez peut-être poser la question, mais il est question ici des ennemis. Mais qui sont ces ennemis? Il faut continuer. 18. Alliance des ennemis, la Ligue arabe. Le verset qui suit, car ils ont consulté ensemble d'un cœur, ils ont fait une alliance contre toi. Donc d'abord il est dit, ses ennemis ont fait une alliance. Et il faut que j'explique. Juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sept nations arabes se sont dit, nous faisons une ligue arabe, pour prévenir que jamais un État juif soit établi en Palestine. Et lorsque, 48, l'État était quand même été fondé, alors dans les années suivantes, la Ligue arabe était là pour détruire cet État juif. Ils ont fait une alliance. Ligue arabe. Alliance arabe. Mais le texte est plus clair. Nous trouvons des termes de l'ambiguïté, bien sûr, au verset 6. Qui sont les ennemis? Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal et Ammon, et Amalek, la Philistie, avec les habitants de Tyr, Assour aussi s'est joint à eux, ils servent de bras au fils de Lot. Eh bien, Édom, Moab, Ammon. Prenez un bon lexique biblique. Vous allez voir. Qu'est-ce que ça veut dire, Édom? Et vous allez voir, Édom, c'était le nom d'un peuple qui a vécu au sud de la Jordanie, au sud de la mer Morte. Moab, c'était un peuple de l'Antiquité qui a vécu à l'autre côté de la mer Morte, en Jordanie. Et Ammon, c'était un peuple au nord de la mer Morte, en Jordanie. D'ailleurs, le nom de la capitale jordanienne, Amman, ça vient encore de Ammon. Eh bien, ces termes indiquent la Jordanie. Et effectivement, la Jordanie était une des nations fondateurs de la Ligue arabe. D'abord, sept nations, aujourd'hui, il y a plus de 20. Mais je peux vous déjà vous dire, dans ce psaume, il y a des allusions aux sept fondateurs de la Ligue arabe. Alors, 19, la Jordanie. 20, l'Arabie Saoudite. Le texte parle des Ismaélites, au verset 6. Et Ismaël était le père de nombreuses tribus arabes qui, encore, déjà il y a 2000 ans, se trouvent particulièrement dans le désert du territoire qui, aujourd'hui, est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite était un des membres fondateurs. 21, le Liban. Au verset 7, vous avez le nom de deux villes, Gebal et Tyr. Tyr, c'est une ville au sud du Liban. Gebal, Jibail, en arabe, c'est une ville au nord du Liban. Le Liban était un membre des fondateurs. un membre de la Ligue comme fondateur.
22. La Syrie. Le terme agarénien désigne une tribu qui, dans l'Antiquité, se trouvait dans le territoire sud de la Syrie actuelle, aussi un peu en Jordanie. Alors, ce terme nous indique la Syrie actuelle qui était un membre, un fondateur. 23. Les Palestiniens. Le texte parle de la Philistie. Ce terme de l'Ancien Testament désigne le territoire des Philistins. C'était exactement la bande du Gaza. Et encore du territoire autour, avec les villes de Gaza, Ashkelon, Ashdod et autres. Et bien sûr, cette ligue a été faite en vue des Palestiniens. D'ailleurs, en arabe, on ne distingue pas entre Philistins et Palestiniens, comme en français. Même qu'on peut voir une liaison étymologique, mais le terme Philistini, c'est le Philistin ou aussi le Palestinien. 24. L'Égypte. Le terme Amalek, au verset 7. Voilà. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte sous Moïse, quel était le premier peuple qu'il a confronté dans le Sinaï? Amalek. Exode 17. Donc, ça indique le territoire de l'Égypte actuelle. C'était aussi un fondateur de la Ligue. 25. Une alliance des ennemis, l'Irak. Le verset 8 parle de Assur. Assur, dans l'Antiquité, était un royaume au nord de l'Irak actuel. C'est là où aujourd'hui l'État islamique a été fondé en 2006. Ça, c'est Assur. Et effectivement, l'Irak était aussi un membre. Et il faudra encore ajouter le Yémen, qui était aussi fondateur, qui est inclus aussi dans le terme ismaélite. N'est-ce pas? Ce sont les Arabes sur la péninsule arabe. Arabie Saoudite et le Yémen au sud. On a trouvé les 7.
Les points 26 et 27, je prends ensemble. Ils sont tellement liés. Fuite et sortie des Juifs hors de l'Irak. Et là, il faut que j'explique d'abord l'arrière-plan. La prophétie en Jérémie 50 et 51 parle de la Babylonie dans les derniers jours. En contraste avec la Syrie, qui désigne le nord de l'Irak, dans la Bible, la Babylonie désigne le sud de l'Irak. Il y avait là, autrefois la ville de Babylone. Et voilà, cette prophétie parle aux Juifs tout en disant qu'il faut fuir hors du pays de la Babylonie. Et le texte dit aussi, il faut sortir, donc faire un exode de la Babylonie. C'est pour ça que je dis fuite et sortie des Juifs hors de l'Irak. N'est-ce pas? Encore au XXe siècle, il y avait une communauté juive d'environ 150 000 Juifs en Irak. Et plusieurs d'entre eux étaient encore les descendants de Juifs qui étaient, il y a 2600 ans, amenés en captivité babylonienne par Nebuchadnezzar. Et les descendants ne sont jamais retournés au pays Israël. Alors, dans les années 1941 jusqu'à 1991, pratiquement toute la communauté juive a quitté l'Irak par la fuite et par une sortie officielle. Jérémie 50, verset 8. Fuyez du milieu de Babylone. Et la prochaine ligne de verset, parce que c'est de la poésie en hébreu. Et sortez, donc officiellement, du pays des Chaldéens. Jérémie 51, 6. Fuyez du milieu de Babylone et sauvez chacun sa vie. Eh bien, les Juifs, à partir de 1941, ont commencé à fuir de l'Irak en millet. Pourquoi? Parce que l'Irak, autrefois, était lié avec les nazis d'Allemagne. Et en 1941, les Irakiens ont fait un massacre terrible parmi les Juifs babyloniens. Et voilà, on a fondé une société clandestine pour aider aux Juifs à fuir de l'Irak. Et des milliers ont pris la fuite jusqu'à 1950. Tout d'un coup, le gouvernement irakien dit, il est permis maintenant pour les Juifs de sortir officiellement de l'Irak. Mais il faut renoncer à la citoyenneté irakienne. Et ils ont pensé à l'époque, nous le savons depuis l'époque après, lorsqu'on permet, 7 à 10 000 Juifs vont partir. Et puis on a le repos après. 104 000 Juifs s'annoncent, nous partons. Et voilà, jusqu'à 52, pratiquement tous les Juifs étaient hors du pays. C'est-à-dire, il y avait encore quelques milliers, et dans la suite, les Juifs en Irak étaient de nouveau persécutés, alors des milliers ont de nouveau pris la fuite, mais à l'aube de la guerre du Golfe de 91, pratiquement tous les Juifs étaient hors du pays. Et c'est exactement ce qu'on trouve aussi dans ce texte 28, fuite et exode, avant la catastrophe en Irak. Parce que le texte en Jérémie 51, verset 6, nous dit « Fuyez du milieu de Babylone et sauvez chacun sa vie. Ne soyez point détruits dans son iniquité, car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel. Il lui rend sa récompense. » Et voyez, c'était guerre du Golfe, c'était une guerre affreuse, terrible, avec tant de morts dans la guerre comme telle, mais aussi dans les années suivantes, lorsque l'Irak est devenu vraiment le prisonnier de l'ONU. Il y avait des centaines de milliers d'Irakiens qui sont morts par les conséquences de ça. L'embargo de l'ONU. Et voilà, les Juifs étaient hors du pays. 29. Une armée du bout de la terre contre l'Irak. Ésaïe 13 et 14 parlent aussi de la Babylonie à l'époque des derniers jours. Et là, il est dit, au chapitre 13, verset 4, à la fin, « L'Éternel des armées fait la revue de la milice de guerre. Ils viennent d'un pays lointain, du bout des cieux. L'Éternel est les instruments de son indignation pour détruire tout le pays. » Dans la guerre du Golfe, 91, il y avait plus qu'une quarantaine de nations des 5 continents du monde qui sont venus contre l'Irak. Ici, sur la carte, il y a seulement une partie qui est indiquée. Mais la plus grande nation de ces presque 1 million de soldats venaient des États-Unis. Ils viennent d'un pays lointain, du bout des cieux. N'est-ce pas? Lorsque j'étais à San Francisco, là, vers le Pacifique, je me suis dit, alors, si maintenant je continue, et effectivement, une fois j'ai pris un bateau, et on a fait donc une expédition pour voir des baleines. Je continue, alors je rentre déjà à la maison, en Suisse. N'est-ce pas? On ne peut pas toujours aller plus loin. Le moment arrive où on retourne de nouveau si on s'éloigne encore. Et alors, il venait vraiment du bout de la terre, du bout des cieux. 660 000 soldats. Et le texte dit, ils viennent pour détruire tout le pays. Et voilà, ils ont fait 100 000 attaques aériennes. Et cela, sous la permission de l'ONU à l'époque. Mais on s'imagine pas, c'était catastrophe. Parce que c'était tout censé à l'époque. 2003, c'était plus censé. Mais, censuré, merci. Censuré, mais C'est pour ça, la plupart du monde ne sait pas cette cruauté qu'on a exprimée par ces armes spéciales qui étaient utilisées dans cette guerre. 31. Un bruit de guerre sur les collines. Je reviens à Ésaïe 13, verset 4, au début. Le bruit d'une multitude sur les collines, semblable à un grand peuple. La voix d'un tumulte des royaumes, au pluriel, avec S, des nations rassemblées. Eh bien, en 1991, c'est environ 40 nations qui sont venues contre l'Irak se sont stationnées en Arabie Saoudite. Ils se sont divisés en plus de 10 parties. Le plus grand nombre de francs est entré dans l'Irak du Sud et ils sont allés sur les collines de l'Irak du Sud. Vous voyez, toutes ces multitudes. Quelques francs, quelques parties sont directement entrées au Koweït pour faire la délivrance de la capitale. Et Saddam Hussein, à l'époque, il a cru que l'attaque va venir depuis le Golfe Perse, mais ils sont entrés là, en Irak du Sud. Ensuite, ils se sont tournés vers le Sud et ils ont attaqué l'armée irakienne au Koweït en attaquant vraiment au dos. Alors, vous voyez, toutes ces nations qui entrent, le bruit d'une multitude sur les collines, semblable à un grand peuple. Ce n'est pas un grand peuple, plus que 40 nations. La voix d'un tumulte des royaumes des nations rassemblées. 32. N'est-ce pas? 31, c'est le bruit de guerre sur les collines, dans toutes ces armées, sur les collines de l'Irak du Sud. Et 32, c'est le point rassemblement de beaucoup de nations. Donc, avec les Américains et tout, presque 1 million de soldats, c'est un peu faux, plus de 40 nations différentes des 5 continents. 33. Conquête de Babylone, un choc pour le monde. 2003. N'est-ce pas, la guerre du Golfe, c'était pas fini. Après 12 ans, ça continuait. 2003. Mais plus sous la direction de l'ONU, mais sous la direction des États-Unis. Mais cette fois, il y avait plus de 60 nations qui sont venues contre l'Irak. Et cette fois, en contraste avec la première guerre, ils ont fait la conquête de l'Irak. Ça, on n'a pas fait avant. On a juste délivré le Koweït après ils sont partis. Et maintenant, Jérémie 50, 22, fracasse de bataille dans le pays, désastre immense. On a fait de nouveau 30 000 attaques aériennes. Comment est-elle devenue un objet d'épouvante parmi les nations? Et effectivement, cette fois, c'était différent. Dans le monde entier, des millions sont allés dans les rues pour protester contre l'Amérique et pour dire, mais qu'est-ce qu'ils font ces Américains? Ils sont fous! Eh bien, on ne veut pas discuter de la politique, n'est-ce pas, maintenant? Mais simplement dire, c'était prévu dans la Bible. Comment est-elle devenue un objet d'épouvante parmi les nations? 34, la prise de Bagdad. Il faut encore que j'explique, Saddam Hussein s'est considéré comme roi de Babylone, comme le deuxième Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et voilà, c'est pour ça qu'il a commencé à rebâtir l'ancienne ville de Babylone. Alors, 2003, on a cru, mais c'est impossible de faire la conquête de Bagdad, parce que l'armée irakienne faisait une ceinture de sécurité autour de la ville, et ils étaient motivés, semble-t-il, comme des lions. Mais après très peu de jours, on a entendu par les mass médias, les alliés sont entrés même au centre de Bagdad. Jérémie 51, 31. Le coureur court à la rencontre du coureur. et le messager à la rencontre du messager pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise de bout en bout. D'ailleurs, on peut aussi traduire le roi de la Babylonie. Babel, c'est la ville et le pays. Que sa ville est prise de bout en bout. Et que le passage s'en saisit et que les palais sont brûlés par le feu et que les hommes de guerre sont épouvantés. La prise de Bagdad. 35. Les passages sont saisis. Bien sûr, les alliés ont saisi les passages du Tigre. Ou Tigris à Bagdad. 36. Les palais sont brûlés. Le monde entier a vu les images, n'est-ce pas? Des palais de Saddam Hussein en feu. Le texte dit « Et que les palais sont brûlés par le feu ». Si dans, par hasard dans votre Bible, il est traduit « les étangs sont brûlés par le feu », eh bien, le terme hébreu « agamim » peut vraiment dire « palais, forteresse ou étang ». Mais les étangs qui brûlent, c'était les palais qui ont brûlé. 37. Fin subite de la guerre, de la première phase. C'était une fin subite de la première phase de la guerre après 25 jours. Jérémie 51, 30. Les hommes forts de Babylone ont cessé de combattre. Ils sont assis dans les places fortes. Leur force est épuisée. Ils sont comme des femmes. On a mis le feu à leur demeure, leurs barres sont brisées. Et voilà, le Spiegel, ce journal connu en Allemagne, en décembre 2003, a interviewé un officier, un haut officier de l'Irak qui a raconté. J'étais dans la guerre, à la guerre, avec mes soldats. Et le lendemain, une partie des soldats n'arrivait plus. Encore un jour après, encore moins. À la fin, il était seul ou presque seul. Ils ont pris la fuite. Les hommes forts de Babylone ont cessé de combattre. Ils sont assis dans les places fortes. Leur force est épuisée. Ils sont comme des femmes. 38. On a mis le feu à leur demeure. Leurs barres sont brisées. Donc, les places de sécurité pour les soldats étaient bombardées par les alliés. 39. Les richesses de Babylone dans les mains des ennemis. Jérémie 51, 13. Et la Chaldée, un autre nom pour la Babylonie, sera un butin. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. Et effectivement, l'Irak est une des nations avec les plus grandes richesses en pétrole. Et le texte le dit, la Chaldée sera un butin. Et effectivement, depuis 2003, beaucoup d'entreprises de l'extérieur sont arrivées en Irak pour faire l'argent. Et pendant ces années, ils ont fait énormément d'argent. Et voilà, Jérémie 51, 13, tout en parlant à Babylone comme une personne, « Toi qui habites sur beaucoup d'eau, entre l'Euphrate et le Tigre, abondante en trésors. » Oui. Une des nations les plus riches en pétrole, ta fin est venue, la mesure de tes rapines. Il faut que j'explique le texte de Jérémie 50-51 et Ésaïe 13-14 nous explique qu'il y aura encore une phase future. Et les deux textes parlent d'une destruction totale de l'Irak du Sud, de sorte que la région ne soit plus jamais habitée. Et le texte explique, une nation va venir du nord pour détruire tout le sud. Est-ce qu'il y a un danger au nord qui pourrait être cruel jusqu'au bout? Eh bien, nous savons que l'État islamique a été fondé en Assyrie, au nord de l'Irak, 2006, et ils connaissent pas de compassion. Le texte ne dit pas que c'est l'État islamique qui va venir, mais il dit clairement une nation va venir du nord et détruire le sud. 40. Je finis par l'Empire romain qui revient. N'est-ce pas? En Daniel 7, Daniel, à l'époque où la Babylonie était un empire mondial, 6e siècle avant Jésus-Christ, il a eu un rêve. En voyant les quatre empires de l'histoire, des grands empires de l'histoire, il a vu un lion qui sort de la mer, qui représentait l'empire babylonien à son époque. Ensuite, un ours qui a désigné donc l'empire mondial des Perses et des Mèdes qui suivaient en histoire la Babylonie. Ensuite, un animal excessivement vite, un léopard qui vient, qui symbolise la Grèce sous Alexandre le Grand, qui en 13 ans, venant de l'Europe, a conquis tout le Proche-Orient, tout le Moyen-Orient jusqu'en Inde, avec une vitesse inouïe, avec quelques 20 000 soldats seulement. Ensuite, une bête à 10 cornes, qui indique le 4e royaume dans l'histoire, Rome. Et maintenant, n'est-ce pas, ça nous avons appris à l'école, en histoire, la Babylonie, Médo-Perse, Grèce, Rome, j'espère au moins. Et maintenant, je fais un lien avec le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Car beaucoup plus tard, à la fin du 1er siècle, à l'époque de l'Empire romain, Jean a eu des visions sur l'île de Patmos. Et en Apocalypse 13 et 17, il reprend le sujet du 4e empire. Il voit de nouveau cette bête à 10 cornes. C'est clair, c'est l'Empire romain. Mais qu'est-ce que le texte explique? La bête, dit Apocalypse 17, 8, la bête que tu as vue était et n'est pas et va monter de l'abîme et aller à la perdition. Trois phases. A, était. B, n'est pas. C, va monter. Vous voyez les temps dans la grammaire. Passé, présent, futur. Sont pris d'une façon absolue. Cela a une certaine signification. Parce que l'Apocalypse nous rend clair que ce royaume se prend comme étant Dieu. N'est-ce pas? Les empereurs romains étaient adorés comme des dieux. Mais dans l'Apocalypse, le vrai Dieu est appelé celui qui était, qui est et qui viendra. Donc, en contraste, qu'est-ce que c'est comme Dieu qui était, n'est pas. Un Dieu ne finit pas à exister. C'est impossible. Mais, en plus, il est quand même dit, va monter de l'abîme. Mais le texte continue, et aller à la perdition. Il y a vraiment une ironie dedans. Mais voilà, il était une fois un empire romain. Ce n'est pas une conte de fées, mais c'est un fait, n'est-ce pas? Et nous avons appris à l'école, je l'espère au moins, que la partie de l'Ouest est tombée sous l'attaque des barbares venant du Nord et de l'Est, 476, n'est-ce pas? Mais l'Est a continué longtemps encore, jusqu'à 1453, où l'Empire de l'Est tombe sous l'attaque des Turcs, des musulmans. D'ailleurs, lorsque j'étais une fois à Istanbul, j'étais dans le marché et j'ai vu un homme qui vend des choses sur le marché avec un t-shirt. C'est rien de spécial d'avoir un t-shirt. Mais il y avait derrière juste une inscription 1, 4, 5, 3. Les Turcs, ils savent. C'était grande période où nous avons détruit l'Empire romain, c'est-à-dire l'Empire de l'Europe. Bon, mais il faut dire, encore avant, longtemps avant, vers 800, Charlemagne, il a en quelque sorte rétabli l'Empire romain à l'ouest. Et cela a continué. On l'a appelé l'Empire saint. Et plus tard, on a appelé l'Empire romain saint des nations germaniques. Parce que c'était toujours le pape de Rome qui mettait la couronne sur les empereurs, mais c'était toujours des Allemands, les empereurs. Et cela a dominé des grandes parties de l'Europe, uni des grandes parties de l'Europe pendant des siècles, jusqu'à 1806, lorsque Joseph II, c'est lui-même qui a mis la couronne de l'Empire de côté. Fini. Mais 2 ans avant, c'était Napoléon qui a lui-même mis la couronne. Et lorsqu'il a fait ces grandes batailles jusqu'en Russie, c'était pour réunir l'idée de ce grand empire romain. Mais vous savez, 1813, la bataille des nations à Leipzig, c'était clair, maintenant c'est fini. Et l'année d'après, le Parlement français a mis de côté Napoléon. Il n'y avait plus d'empire romain. N'est pas. C'était l'époque du nationalisme. On était fiers d'être français, ou suisse, ou bien espagnol, ou tzigane. Et on recherchait l'identité, n'est-ce pas? On ne voulait plus un grand empire européen. Et cela était dangereux. Le nationalisme comme tel n'est pas dangereux, n'est pas négatif. C'est beau si on a de la joie en les montagnes en Suisse, n'est-ce pas? Mais seulement lorsque on pense comme Suisse, on est meilleur que des autres. Ça, c'est très mauvais. Mais le nationalisme, dans le sens de reconnaissance pour le pays que nous avons reçu, l'amour pour la patrie, c'est une bonne chose. Mais ce mauvais nationalisme a amené à une division de l'Europe qui a mené finalement à la Première Guerre mondiale. Et ce n'est pas fini. La Première Guerre mondiale a eu une suite par la Deuxième Guerre mondiale. Et ensemble, à peu près 80 millions de morts. 45. Et l'Europe était par terre. Et juste l'an d'après, 46, c'était Winston Churchill qui est venu à Zurich pour tenir un discours. Il a dit « Let Europe arise !» Laissez se mettre debout l'Europe. Il nous faut établir des Nations Unies européennes. Il a expliqué comment faire. Et vous voyez le développement dans les années 50, 6 nations se sont mis d'accord et puis ça continue jusqu'à la création de l'Europe, de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est cette Union européenne? Eh bien, les visionnaires européens, autrefois l'ont déjà dit, Emil Luss dans les années 50, il a dit, l'Europe, l'Union européenne, il ne faut pas créer, mais il la faut restituer. Et voilà un des secrétaires d'État de la Suisse qui est pro-Union européenne, ça existe aussi en Suisse, Franz Blankort, il a dit, notre but c'est d'établir un empire romain des nations européennes. Voilà. Va monter de l'abîme. Et l'abîme, le terme abyssos en grec, désigne en Romains 10 le séjour des morts. Et effectivement, cet empire est sorti de la Deuxième Guerre mondiale, la pire guerre de l'histoire humaine, avec environ 50 à 70 millions de morts. Et voilà, et allez à la perdition. Donc, à l'époque où Jésus-Christ va revenir dans les derniers jours, il faut qu'il y ait de nouveau un tel empire, une telle union de l'Europe. Mais vous voyez, tout cela dans la même époque. Maintenant, 40 exemples, mais on pourrait continuer jusqu'à plus de 175. Mais je veux finir quand même. On a compris. Et alors, on peut maintenant répondre à la question, sommes-nous vraiment au temps de la fin? Nous sommes vraiment au temps de la fin. Et j'aimerais finir avec trois conclusions, très, très directes. Jésus-Christ revient bientôt, mais non plus comme sauveur du monde, mais comme juge du monde. Bien sûr, là on doit se poser la question, est-ce que je pourrais aujourd'hui, si je devrais me mettre devant le juge du monde, est-ce que je pourrais me tenir debout devant Dieu? Quand je vois la culpabilité dans ma vie, mais comment nous pouvons-nous présenter devant le juge du monde? Mais Jésus-Christ revient bientôt. Deux, la Bible est la parole de Dieu. Il n'y a aucun livre dans le monde à côté de la Bible, qui contient de telles prophéties précises, exactes, sur des milliers d'années. Vous pouvez demander à un musulman, est-ce que tu peux m'apporter une liste de 100 prophéties accomplies du Coran? Il ne va jamais vous apporter cette liste. Mais il faut gentiment demander. Et puis, il faut demander à un bouddhiste, est-ce que tu peux m'apporter une liste de 100 prophéties accomplies? Il ne va jamais vous apporter. À un hindouiste. Mais si vous voulez une liste de plus de 175, alors je les ai mis dans ce livre, sommes-nous vraiment dans les derniers jours, mais on peut ajouter, j'ai écrit un livre sur la prophétie de Daniel avec plus de 200 prophéties accomplies sur la prophétie mondiale, sur l'histoire mondiale, et on peut continuer par les 300 prophéties concernant Jésus-Christ et sa première venue. C'est unique, mais ça prouve que la Bible soit vraiment la parole de Dieu. Et voilà, trois, nous devons nous tourner vers Dieu. Cette Bible nous dit, nous avons tous péché. Nous avons tous vécu contre les commandements de Dieu. Et notre conscience le souligne. Et voilà, la Bible nous dit, si nous confessons, dans la prière personnelle, à Dieu, tous les péchés que nous connaissons encore, beaucoup nous avons oubliés, mais surtout ceux qui pèsent, confesser à Dieu, demander pardon à Dieu, et remercier que Jésus-Christ, la première fois, il n'est pas venu comme juge du monde, mais comme sauveur du monde, pour mourir, pour subir le jugement qui aurait été notre part en éternité. Et il a été abandonné de Dieu, dans les trois heures sombres à la croix, parce que il a porté les péchés. Et Dieu a mis le jugement sur lui, et chacun qui, en quelque sorte, qui s'identifie avec Jésus-Christ, et qui dit, oui, Seigneur Jésus, je vois que toi tu es mort à ma place. Alors Dieu applique cette œuvre à lui, et efface toute la culpabilité, tous les péchés. Et c'est vraiment, c'est une chose merveilleuse. Quand on sait, tout est pardonné, complètement. Et voilà, c'est ce que l'Épître aux Romains appelle justifié par la foi. Et qu'est-ce qui se passe si on enlève toute la culpabilité de notre vie? Qu'est-ce qui reste? Injuste. Si tous les péchés sont loin, il reste injuste. Alors, Dieu peut nous justifier. Et ainsi, on peut vraiment être sûr le jour où tous les êtres humains se tiendront devant le juge du monde. Je ne dois plus avoir peur. Parce que je sais que le juge du monde, c'est mon sauveur. Impossible que je serai encore condamné. Mais pas sur la base de ce que j'ai fait, mais sur la base de ce que Jésus-Christ a fait. Et juste pour finir, j'explique, Jésus-Christ va revenir comme le juge du monde, à Jérusalem, sur le mont des Oliviers. Mais la Bible nous dit, avant, il y aura une période d'une guerre mondiale, la pire des guerres mondiales, la grande tribulation, 3 ans et demi. Et encore avant, il y a l'époque où l'Antéchrist, le plus grand séducteur, va arriver pour séduire les masses. Mais juste avant, il y a l'enlèvement de l'Église. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui sont pardonnés complètement seront enlevés pour être évacués du pire qui va venir. Et la Bible nous explique que cet enlèvement pourrait se réaliser chaque jour. Il ne faut pas une prophétie qui se réalise encore avant. Alors on peut, comme chrétien, toujours dire « peut-être aujourd'hui ». Mais pourquoi je mentionne encore ça? Parce que, dernièrement, j'ai tenu une conférence sur la prophétie, sur ce que la Bible dit concernant l'avenir de la Syrie, en rapport avec le développement de l'État islamique. Et à la fin, j'apprends que quelqu'un a entendu quelques personnes, je pense un non-chrétien qui était derrière, et qui ont dit « Bon, alors, on a encore le temps. Le troisième temple n'est pas encore construit, on a encore le temps. » J'aurais dû expliquer. L'enlèvement peut se faire chaque jour. Et après l'enlèvement, ceux qui ont entendu la bonne nouvelle ne peuvent plus jamais se convertir. Parce que la Bible dit, tous ceux qui ont entendu comment on peut être réconcilié avec Dieu seront endurcis et vont suivre la séduction de l'Antéchrist. Donc, il ne faut pas attendre jusqu'à demain. Peut-être aujourd'hui, mais aujourd'hui, Dieu nous offre sa grâce pour être réconciliés avec Dieu, pour avoir la paix avec Dieu. Et c'est mon désir pour chacun d'entre nous. Merci.
Merci Roger. Alors, compromis, on va prendre un petit temps de questions. Je pense que Roger saura répondre brièvement. Et si vous posez une question courte aussi, alors, si quelqu'un a une question, il peut se lever et dire autre chose.
Une question sur la renaissance de l'État d'Israël. En 1948, on a été évoqué les couleurs de cet enfantement, notamment des nations arabes qui ont pressé l'État d'Israël au moment de cette renaissance. Et on n'a pas parlé du nazisme, des persécutions qui ont eu lieu juste avant, pendant la guerre.
Oui.
Est-ce qu'on peut les associer aussi à ces couleurs?
N'est-ce pas? Je me suis limité à 40 prophéties. Et on aurait aussi pu parler du nazisme et ce que la Bible en dit. Et effectivement, la Bible en parle que dans les derniers jours du retour des Juifs en Israël, il y aura donc un massacre terrible du peuple juif. Et j'aimerais juste montrer un exemple du Deutéronome 28 qui dit au verset 64 que les Juifs seront dispersés dans le monde entier et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Et ensuite 65. Et parmi ces nations, tu n'auras pas de tranquillité. Il n'y aura pas de repos pour la plante de ton pied. Et l'Éternel te donnera là un cœur tremblant et des yeux languissants et une âme défaillante. Et ta vie sera en suspens devant toi. Et tu seras dans l'effroi, nuit et jour. Et tu ne seras pas sûr de ta vie. Le matin, tu diras, qui donnera le soir? Et le soir, tu diras, qui donnera le matin? À cause de l'effroi de ton cœur dont tu seras effrayé et à cause des choses que tu verras des yeux. Mais, n'est-ce pas, on pourrait penser c'est quelqu'un qui était dans les camps de concentration qui a écrit ça. D'autres questions? Oui? Oui?
De feuilles, vous connaîtrez que l'été est proche. De même, aussi, quand vous allez arriver à des choses, sachez que l'été est proche à la porte.
Oui.
En réalité, je vous dis que cette génération ne passera pas des choses. Voilà.
Oui, c'est ça. Oui, je sais. Je connais la question maintenant. Mais expliquez quand même. Oui. Une génération, 40 ans, voilà, 48, Jésus-Christ va revenir. Oui. Al Lindsay a fait une grande erreur à l'époque. N'est-ce pas son livre, L'agonie de notre vieille planète? C'était vraiment un livre qui a amené beaucoup de personnes à Jésus-Christ. Et nous avons toujours su, nous n'avons pas le droit de calculer le retour de Christ. Il y a bien des passages qui nous expliquent cela. Et il faut résister à cette séduction. Et je vous dis, combien de fois des personnes après des conférences arrivent. Mais qu'est-ce que, Monsieur Lévy, vous pensez? Ça peut encore durer plus d'une année ou... Alors je dis, on a les signes du temps. Ils sont absolument clairs. Et Jésus-Christ peut revenir chaque jour, peut-être aujourd'hui. Mais il ne faut jamais faire des calculs. Alors, à Lindsay, il s'est dit, voilà, une génération, 40 ans. Donc, depuis 48, 40, ça nous amène à 88. Et Jésus-Christ n'est pas venu. D'ailleurs, le terme traduit par génération peut aussi signifier en grec race, tribu, peuple. Et il faut comprendre ça pas comme une génération, mais il faut comprendre ce texte comme ce peuple juif, cette race juive ne sera pas exterminée jusqu'à la fin. On a tout le temps essayé d'exterminer le peuple choisi de Dieu, mais c'était impossible. C'est une promesse que Israël ne sera jamais annulé. Et donc, on peut pas faire un calcul sur ce terme.
Thank you.